Actes chapitre 6, versets 1 à 7. Le texte que nous allons prendre aujourd'hui pour la méditation, Actes des apôtres chapitre 6, versets 1 à 7. Au nom de Jésus. En ce temps-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les croyants de langue grecque se plaignirent de ceux qui parlaient l'hébreu. Ils disaient que les veuves de leur groupe étaient négligées au moment où chaque jour on distribuait la nourriture. Les 12 apôtres réunirent alors l'ensemble des disciples et leur dirent « Il ne serait pas juste que nous cessions de prêcher la parole de Dieu pour nous occuper des repas. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de bonne réputation, remplis du Saint-Esprit et de sagesse, et nous les changerons et nous le chargerons de ce travail. Nous pourrons ainsi continuer à donner tout notre temps à la prière et à la tâche de la prédication. » L'assemblée fut d'accord avec cette proposition et choisit alors Étienne, homme rempli de foi et du Saint-Esprit, ainsi que Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas d'Antioche, qui s'étaient autrefois convertis à la religion juive. Puis, on les présenta aux apôtres qui prièrent et posèrent les mains sur eux. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et de très nombreux prêtres se soumettaient à la foi en Jésus. Amen. Une grande majorité d'entre vous, probablement, a certainement déjà entendu une expression que j'ai souvent citée tout au long de mes prédications ou des études bibliques que vous avez suivies sur notre page. Et là, voici cette expression en question. J'ai cherché le monde et j'ai trouvé l'Église. J'ai cherché l'Église et j'ai trouvé le monde, disait Fernand le Grand. Je reprends. J'ai cherché le monde et j'ai trouvé l'Église. J'ai cherché l'Église et j'ai trouvé le monde, comme disait Fernand le Grand. L'Église de Jésus-Christ, elle est implantée dans le monde, et non dans les nuages, chers amis. Ce qui veut dire que si nous espérons que nous serions à l'abri des différents conflits, des discordes d'église, dans quelconque église, nous serions fortement déçus. Nous en avons un exemple ici sous nos yeux dans le texte. La première église, celle que nous prenons tous comme exemple par excellence parmi toutes les églises. Moi, personnellement, ce que je trouve exceptionnel dans les textes bibliques, c'est qu'ils ne cachent pas les réalités factuelles qui se sont réellement passées, soit dans la vie des hommes et des femmes de Dieu, dans les différentes églises. Contrairement à ce que pensent nos détracteurs qui avancent que nous cachons la vérité et que les auteurs de la Bible essaient de justifier les choses qui ne devraient pas être défendues. Je ne sais pas pour vous qui avez suivi la lecture ce matin, mais rien qu'à la première vue de ce texte, l'auteur, pour moi, pointe du doigt les anomalies qui se sont passés déjà dans l'église primitive de Jérusalem. L'auteur n'a rien caché, n'a rien dissimulé. Il met même en lumière, voire à la loupe, ce qui ne va pas. Et comment les hommes de Dieu se sont corrigés mutuellement pour une meilleure croissance de l'église. Les apôtres étaient en quelque sorte dépassés par les événements. Ils n'arrivaient plus à suivre la cadence du Saint-Esprit, par le flux des personnes qui rejoignaient l'Église et se faisaient de façon exponentielle. Beaucoup de personnes sont venues rejoindre les disciples. Mais voilà ce succès de l'Église apportait des problèmes avec lui. Les apôtres étaient devenus débordés. Et qu'au final, ils n'ont plus su gérer correctement les aides et les dons que les nouveaux fidèles apportaient à l'ensemble de la communauté. Certains groupes de personnes se sentaient un peu lésés. Et soulignons-le, ce sont des Grecs. Ça veut tout dire. Ils ne critiquaient pas la qualité de l'enseignement, mais la bonne gestion des ressources financières. À cette époque, la civilisation grecque était encore omniprésente dans la mentalité et la façon de gérer la société. Ce qu'il faut retenir dans cette histoire, pour moi, c'est l'humilité qu'avaient les apôtres face à cela. Ce n'est pas parce qu'ils sont les apôtres qu'ils étaient choisis directement par le Christ lui-même qu'on ne pouvait pas les interpeller. Regardez bien le texte. Mais ils ont même avoué qu'ils ne sont pas compétents en la matière. C'est bien écrit. Il n'est pas question ici de vol, c'est pas du tout le sujet, mais une mauvaise gestion due à un manque de compétences ou manque de temps qui devrait disposer pour bien gérer tout cela. Pour moi, c'est ce qui fait la grandeur des hommes et des femmes de Dieu, savoir reconnaître ses propres limites. C'est ce qui fait la grandeur d'un homme de Dieu ou d'une femme de Dieu. Un homme de Dieu, une femme de Dieu n'est pas quelqu'un qui est superman ou superwoman ou quelqu'un qui a toutes les connaissances. Ce n'est pas cela. C'est de reconnaître jusqu'ici est ma limite. Est-ce que cela ne nous rappelle-t-il pas une histoire aussi dans l'Ancien Testament? Ça me fait rappeler l'histoire de Moïse. Le grand Moïse charismatique qui avait tous les dons de Dieu. Et le conseil de son beau-père, Jéthro. Rappelez-vous, une fois sorti de l'Égypte, et après avoir traversé la mer Rouge, donc il était en pleine force, en pleine confiance, il voyait la main de Dieu sur lui. Voilà un petit Jéthro qui vient à sa rencontre. Voyant son rythme de travail, du matin au soir, Moïse ne cessait de recevoir toutes les doléances des uns et des autres. Alors Jéthro, qui, signalons-le, est un étranger, c'est-à-dire un païen, un non-israélite, il ose proposer à Moïse un conseil. Lui qui n'est rien du tout face à Moïse. Moïse, il vient de traverser la mer Rouge. Donc, dans notre imagination, c'est quelqu'un qui ne devrait pas recevoir d'un conseil d'un quiconque, du moins d'un païen. Mais il était à l'écoute de Jéthro, et Jéthro lui a proposé quelque chose. Voilà, il a dit, « Choisis des personnes parmi les Israélites pour l'aider à juger et à traiter les affaires plus légères. » Et qu'il lui restait à traiter les gros dossiers, et surtout, afin qu'il ait plus de temps, écoutez bien, afin qu'il ait plus de temps à prier, de se mettre à part pour recevoir les messages divins de l'Éternel pour le peuple. Parce qu'il a passé trop de temps à recevoir des doléances, à recevoir des gens qui n'avaient plus le temps, Moïse, de se mettre à part pour prier et pour avoir un moment de tête-à-tête avec son Dieu. Chers amis, je vais vous partager mon agenda, un exemple type d'un agenda d'un pasteur. Parfois, les gens pensent que c'est juste le dimanche matin où je présente la prédication et c'est tout. Voilà ce que je dois faire toute la semaine. La prédication, préparer la prédication. Préparer l'étude biblique. Enseignement des catéchumènes. Réunion des jeunes. Différentes réunions de prière. Et donc, en plus de tout cela, préparer une prédication, préparer une étude biblique, ce qui signifie plus de temps encore de lecture, de recherche, avant d'écrire. En supplément, il y a des réunions dans les différents niveaux, que ce soit local ou supralocal, national. On ne compte même pas les imprévus qui, signalons-le, sont aussi plus nombreux que ce qui était prévu. En bonus, la vie privée du pasteur, que ce soit familial, associatif, amical, puisque lui aussi il a des amis, comme tout le monde, très souvent, ces derniers sont relégués et reportés pour une énième fois s'il y a une occasion. Souvent, c'est toujours tombé à l'eau. Mais ce n'est pas grave. Là où je veux en venir, c'est que ce texte nous aide à repenser et à revoir ce qui est la prioritaire de toutes les priorités dans une vie d'église. Et cela, ça devrait être toute la communauté. Je dis bien la communauté, non seulement le consistoire, ni les anciens, ni les responsables. Souvent, on a eu cette idée de mettre tout ça sur les épaules de quelques groupes de personnes. Mais c'est le devoir de toute la communauté qui doit être conscient et prendre des mesures pour que cette priorité soit assurée. Et c'est quoi cette priorité? Regardez le verset 2 et 4 de notre texte. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissons la parole de Dieu pour servir aux tables. Quant à nous, nous consacrerons assidûment à la prière, ce n'est pas de temps en temps, si j'ai le temps ou s'il n'y a pas de réunion, assidûment à la prière et au service de la parole. » Voilà la priorité des priorités des anciens de l'Église, du pasteur, des responsables d'Église. Donc ma question, où est-ce que l'Église aujourd'hui doit mettre tout son effort? Chacun devait être à son poste, bien sûr, afin que l'effort principal des ministres de la parole soit vraiment focalisé au service de la parole. Vous savez, être au service de la parole ne consiste pas simplement à une affaire de prédication ou d'enseignement biblique. Mais toutes les églises doivent faire passer au scan leur vie paroissiale. Et je trouve que nous arrivons à un moment de transition avant de passer au déconfinement. Je pense que toutes les églises devraient faire un travail de scan, de revoir la vie de l'église dès le début. Est-ce que tous nos efforts qui ont été pris, que ce soit en matière financière, personnelle, bâtiment, architectural, est-ce que tous ces efforts convergent vers la mise en valeur de la parole? Si ce n'est pas le cas, on peut le reléguer en deuxième position. Parce que nous dépensons trop d'énergie pour des choses secondaires et non prioritaires. Moïse a passé des jours en montagne pour avoir un tête-à-tête avec son Dieu. Et ce n'est qu'après son retour qu'il apporta les tablettes de la loi, par exemple. Et une fois que le campement était installé dans le désert, Moïse allait sous la tente quand il le pouvait pour être en tête à tête avec son Dieu. Et très souvent, lorsque la colonne de feu descendait sur la tente, Dieu le convoqua et lui, avec Aaron, se prosternait par terre pour avoir ce moment d'intimité avec l'Éternel. Et il passait des heures et des heures à dialoguer avec son Dieu. Et il écoutait les consignes de l'Éternel pour pouvoir les partager avec force et puissance à toute l'Église. Chers serviteurs de Dieu, avons-nous assez de temps à passer avec notre Seigneur pour des moments que je qualifie de tête à tête avec Dieu? Ces moments sont très précieux. Ce ne sont pas des moments de prière, d'intercession, puisque dans notre tête, quand on dit se mettre à part pour prier, c'est intercéder pour quelqu'un, demander quelque chose. Non, ça c'est l'activité de chaque individu. Mais je dis un moment de tête à tête, un instant à part pour entrer, comme je qualifie, dans un endroit où les psalmistes appellent la cour de l'Assemblée des Saints. La cour de l'Assemblée des Saints, ça se trouve dans Psaume 89, versets 7 à 9. Voilà ce qui est dit au nom de Jésus. Qui donc dans la nue peut se mesurer au Seigneur Yahweh? Qui est comparable au Seigneur Yahweh parmi les fils des dieux? Dieu est terrible dans le conseil secret des saints, redoutable pour tout ce qui l'entoure. Regardez bien, il y a un conseil des saints dans l'assemblée des saints, là où Dieu est entouré par ses fils, c'est-à-dire toi et moi et ses filles. Donc Dieu a un moment de privilège où il veut passer un moment avec ses enfants. Et nous faisons partie de ce conseil des saints. Parce qu'il est aussi écrit dans un psaume, « J'avais dit, psaume 82, verset 6, « Vous êtes des dieux, vous êtes tous les fils du Très-Haut. » Donc, nous sommes appelés à venir dans ce lieu qui nous est destiné. N'hésitez pas à venir dans ce conseil des saints. Tous les jours, tu as ta place là-bas. Tu as ta part de place de conseil de saints. Tu as ta place là-haut. N'attends pas à quitter ce monde ou cette terre pour y goûter à ce privilège. Non, ce n'est pas du tout cela. Pour moi, c'est ce qui fait la saveur de ces moments de prière personnelle que moi j'apprécie beaucoup. David avait trouvé le secret. Écoutez ce qu'il nous dit. Ainsi, je contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Parce que ta fidélité est meilleure que la vie. Mes lèvres font tant d'éloges. Ainsi, je te bénirai toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Je serai rassasié comme la graisse, comme de graisse de moelle. Des cris de joie aux lèvres, ma bouche te louera. Voilà ces moments de délices, comment David décrit ces moments d'intimité avec Dieu. Alors ne venez pas me dire que ce sont juste des chants, des poèmes, un artiste qui a eu une inspiration. Mais je vous dis, qu'est-ce qui a poussé David à dire ces choses-là? David, lui, c'est ce que j'apprécie beaucoup chez David. C'est un roi, un guerrier. Vous savez, un roi a un agenda plus que les ministres même. Il est en train de gérer son royaume, de gérer son armée. Mais il avait du temps pour cette intimité avec l'Éternel sous la tente. Il passait des heures et des heures. Et savez-vous, pendant ces moments d'intimité que David passait avec l'Éternel sous la tente, c'est là qu'il a composé tous ses psaumes. C'est incroyable. Il avait du temps pour écrire, il avait du temps pour... Regardez ces psaumes merveilleux que nous avons aujourd'hui. C'est le fruit de l'intimité de David avec son Dieu. Il passait des moments cruciaux sous l'attente de la rencontre, rien que pour contempler son Dieu et avoir des tête-à-tête avec l'Éternel. Il est transposé ailleurs, il est transporté ailleurs. Qu'est-ce qu'il aime passer du temps avec son Dieu? Je vous pose aussi la question. N'aimerais-tu pas aussi passer un moment de tête-à-tête avec ton Dieu? Je ne dirais pas un moment pour prier ou demander quelque chose. Non, mets de côté tous tes sujets de prière. Mais juste un moment de lui parler. Je vous donne un exemple type. Prenez un temps, tous les jours, où vous allez raconter toute votre journée à l'Éternel. C'est incroyable. Tu raconteras ce matin, Seigneur, j'étais ceci, il y avait quelqu'un qui m'a embêté, je n'étais pas content. Mais c'est ça, ces moments d'intimité. Ce moment où tu lui dis tout. Et lui, il est toujours prêt à t'écouter. Ces moments de tête à tête, pour moi, c'est un moment privilégié pour un homme de Dieu et une femme de Dieu. Puisque en sortant de là, tu verras et tu sentiras que tu auras une force. Parce que c'est un moment d'échange. Tu chantes, tu lis la Bible, tu lui parles, tu repris, tu fais tout ce que tu veux. Tu peux même danser devant l'Éternel, tu peux lui tout dire, même dire ce que tu ne supportes pas, comme David le fait. Regardez les psaumes de David, il disait, ben, Seigneur, je ne suis pas d'accord avec toi, avec ça et ça et ça. Il verse tout. Mais après, il se ressaisit, puisqu'il a tout vidé son sac, et l'Éternel lui reprend par la suite. Et donc voilà, ce que Dieu veut, c'est que juste lui parler, l'écouter, le louer en tête à tête, sans personne autour de vous, sans les membres de votre famille, toi et ton Dieu, essayez-le, c'est si délicieux, et je vous l'assure, c'est merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse dans votre démarche, dans ce tête-à-tête avec lui. Amen.